Le cortex. Mais génial, le cortex préfrontal. Ben, j'adore jongler, par exemple. Alors, je sais pas pourquoi, mais dès que je ressens qu'il faut que je reconnecte mes neurones ou qu'il faut que je me remette un petit peu dans le droit chemin, j'aime bien jongler. J'ai le sentiment que ça me reconnecte les neurones.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous accueillir dans ce qui est devenu, grâce à vous, la première émission Radio de France à cette heure-ci.
Ah oui,
oui, oui. Trêve d'effusion narcissique, de ce côté-là on a déjà fait le plein hier. Bienvenue donc dans Zoom Zoom Zen, l'émission où on rit certes, mais sans jamais perdre de vue l'objectif de se coucher moins con. Et aujourd'hui nous serons plus que jamais à la hauteur de cet ambitieux cahier des charges, puisqu'on va zoomer sur cette partie de notre corps où vous allez voir tout se joue. Zone cruciale, dont pourtant on parle peu, le cortex. Une membrane sans laquelle il n'y a ni émotion, ni intelligence, ni prise de décision. Et pourtant donc, on parle toujours du cerveau, et beaucoup plus rarement du cortex, qui est donc, dans le corps humain, ce que Pierre Courade est dans l'équipe de Zoom Zoom Zen, le... Il est temps aujourd'hui de corriger cette injustice, pas pour Pierre, ça on s'en fout, on verra plus tard si on a le temps, mais pour le cortex, pièce maîtresse, sans laquelle les fonctions aussi essentielles que le langage seraient impossibles, ou alors très difficiles, comme quand Quentin a trop bu.
Et il y en a, hein, des quinquas.
Alors, qu'est-ce que le cortex? C'est notamment le cortex préfrontal qui est visiblement le propre de l'homme. Comment fonctionne-t-il? Quentin, a-t-il un cortex?
C'est d'ailleurs ce que Contaste.
Je peux pas y arriver. Non, vous n'allez pas y arriver. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Non, mais je me vengerai.
Toutes les fois
où vous bûchez sur des petits mots comme ça,
je ne bûche jamais.
Non, on devrait
reprendre
les extraits.
Toutes les archives. Ouais. Je pense que en 4 saisons, je n'ai jamais savonné sur un mot. C'est la première fois. C'est la première fois. On vit un moment proprement historique. Ouais. C'est la première fois que je savonne.
Ce garçon ment, mais
oui. Ment, menteur.
Richard Lévy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes neurologue, professeur à Sorbonne Université. Vous dirigez l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer, ainsi que l'unité de neurologie comportementale de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Vous êtes aussi à la tête de l'équipe Front Lab, spécialisée dans l'étude du cortex préfrontal. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. D'autant que vous venez de sortir un livre, Cortex, percer les secrets de l'intelligence, chez Albin Michel. Alors, qu'est-ce que le cortex? Vous parlez de hub à l'origine à la fois de nos émotions, de nos actions et de notre intelligence. Bref, le cortex est au cœur de notre discernement et de notre liberté. Vous allez nous expliquer pourquoi et comment. Juste le temps de vous présenter deux journalistes dont les cerveaux sont des bijoux d'orfèvrerie. Manon Mariani, Quentin Lhuy, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Manon, sous cette raie si parfaite qui justifie à elle seule l'existence de la polémique prime coiffure en vigueur à Radio France et que dénonce à juste titre Charles Lalonde, se cache un cerveau d'une vivacité étonnante. Et chaque après-midi, vous nous proposez une pièce jointe.
Oui, oui, d'anthologie aujourd'hui. Une pièce jointe vraiment à 180 degrés.
C'est-à-dire.
Je disais en rigolant dans le bureau que le mot cortex me faisait penser à un dessin animé culte qu'on regardait petit. Et mon Cyril Dieu. M'a dit, parle là-dessus, c'est marrant. Du coup, je vais vous raconter l'histoire de Minus et Cortex.
Ah. Malheureusement, il vous a dit oui après un blériot où on avait peut-être un peu trop. Je pense que
c'est rigolo,
cette décision éditoriale.
Les deux petites souris.
Pas de côté. Oh.
il n'a pas dessoulé, visiblement.
Bah, visiblement, il est toujours.
Le rabat-joie, Noël.
Face à vous, professeur, il a souvent été décrit comme le pire d'entre nous. Je l'ai toujours défendu. Mais là, je dois dire qu'hier, les photomontages humiliants qu'il a publiés dans le groupe WhatsApp de Zoom Zoom pour se moquer de notre confrère Laurent Ruquier, dont l'émission Les Grosses Têtes est désormais devancée par la nôtre. Montage où on voit Lolo sortir hagard d'une voiture en panne sur le bord d'une route pendant que le bolide Zoom Zoom Zen trace sa route. J'ai trouvé ça dégueulasse. Dégueulasse et mesquin. Non, mais... J'embrasse Laurent qui est un ami.
Vous oubliez la meilleure vanne de cette photo.
C'est-à-dire.
Il était avec la valise RTL. C'est ça qui était drôle.
C'était drôle, mais c'est mesquin. Ça reste mesquin, Quentin.
Ayons la victoire modeste.
Ça ne vous ressemble pas, Quentin. Vous vous rattraperez tout à l'heure avec votre micro-trottoir.
Un micro-trottoir sur le cerveau, donc enfin une partie du cerveau qu'inspire le mot cortex dans la rue. Les gens savent-ils seulement à quoi il sert? Comment on muscle, ce cortex? Des réponses complètement à la rue dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, nous jouerons avec les chiffres fous du cerveau. Des chiffres pas tout à fait aussi fou que les calculs de Manon concernant les doses d'alcool.
Une dose de par exemple de Porto, donc du coup à 5 centilitres, si j'en bois 15 d'affilée, ça va changer la donne.
Mais des chiffres assez fous quand même, ça sera le zoom zoom test. Juste avant 17h, nous serons rejoints par un autre cerveau de la bande, Harold Barbet. Après 17h, restez avec nous, on scannera l'actu de ce 14 janvier avec un invité dont la trajectoire est un message d'espoir pour Quentin, de l'échec scolaire au CNRS. On sera avec le sociologue Marwan Mohamed qui sort un livre intitulé « C'était pas gagné ».
J'ai la première partie, mais pas la deuxième.
Voilà, vous avez la moitié du livre.
T'en es loin quand même.
Vous avez fait la moitié du chemin. Mais d'abord, zoom donc sur cette zone méconnue de notre tête, le cortex. Professeur Lévy, vous dites quelque chose d'assez vertigineux. Vous dites que sans le cortex, nous serions incapables de créer et esclaves du présent, sans possibilité de confronter nos perceptions à nos souvenirs, ni d'envisager des futurs possibles. On est à la limite de la science et de la philosophie, là.
Absolument, on est à cette limite. Sans cortex, vous pouvez respirer, vous pouvez courir comme une poule décapitée, ouais. Et vous n'avez pas de pensée structurée. Pas de pensée structurée, ça veut dire pas de liberté d'agir. Il n'y a que le présent qui compte. Le passé et le futur ne sont pas intégrés dans vos actions. C'est ça que fait le cortex, en particulier l'avant du cortex, qu'on appelle le cortex préfrontal.
En même temps, il n'y aurait pas de dépression, quoi. On serait dans l'instant présent, oui. Tout le temps. Et...
Exactement, c'est tout à fait ça. Sans futur et sans passé, pas de dépression.
Depuis hier, il rayonne comme rarement. Il a rayonné. Est-ce nos succès d'audience qui le grisent ? Les invitations pour des pince-fesses qui arrivent à nouveau après des années de disette mondaine, depuis qu'il a son édito dans la matinale ? Ou bien, Cyril étant un grand sentimental, est-ce plutôt le souvenir de cette militaire américaine avec qui il avait eu une aventure du temps où il gérait le portique de sécurité de l'ambassade des États-Unis ? Souvenir qui lui est revenu hier en mémoire et qu'il n'a pu s'empêcher de partager avec nous. C'était une Marines, avec elle j'étais toujours au garde à vous, nous confiait-il, rieur, en joignant, hélas, le geste à la parole sacré Cyril. Cyril, dites-nous,
si
le cortex...
Allez, c'est quoi? Un énorme beauf.
Mais vraiment, c'est fou, en plus, vous avez jamais dit ça, Cyril.
Non, c'est vous qui avez tenu à inviter Patrick Sébastien parmi nous l'autre jour. Je le rappelle, c'était une décision éditoriale qui ne m'appartient pas. Il y a 6 mois que le temps passe vite. Cyril, racontez-nous que le cortex aussi est une zone importante de notre anatomie. Justement, d'où ça sort, si on peut... parler comme ça, le cortex.
Eh bien, imaginez l'objet le plus complexe de l'univers. Il pèse à peine 1,3 kg, il a la consistance d'un flan et il tient entre vos mains. Oui, c'est votre cerveau. Mais si vous regardez bien la bestiole, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. Le trésor, pour une fois, c'est l'emballage. Cette fine couche grise, plissée comme une noix qui recouvre tout. Si vous avez vu le film Hannibal Lecter, c'est ce que le personnage de Lecter déguste à la toute fin. Voilà. Eh bien, c'est dans cette couche de 3 mm d'épaisseur que se loge nos souvenirs, notre humour, ma capacité à lire ce texte ou à râler après Quentin.
Tout voici... ça en seulement 3 mm.
Tout ça en 3 mm. Voici le cortex, un mot latin qui veut dire écorce. Les premiers anatomistes qui ont ouvert un crâne l'ont comparé à l'écorce d'un arbre. Une simple enveloppe protectrice, ils pensaient que ce qui était important, c'était en fait la moelle blanche à l'intérieur. En fait, pendant des siècles et des siècles, le cortex a été méprisé.
Et quand est-ce que ça a changé ?
Tardivement, en fait. Au 17e, grâce à un médecin anglais nommé Thomas Willis. C'est lui qui identifie cette matière grise comme la zone centrale de notre cerveau. Il faudra encore du temps pourtant pour bien comprendre à quoi ça sert. Et surtout, à quoi sert quoi ? À comprendre aussi que le cortex est divisé en zones géographiques. Une zone pour parler, une zone pour voir, une pour bouger le petit doigt, etc. etc. Aujourd'hui, on sait que si on pouvait déplier le cortex, il ferait 2 mètres carrés quand même. Quant à savoir d'où ça sort le cortex, eh bien de la découverte de cette fine écorce fragile. Et c'est le début de notre histoire.
Merci Cyril. Alors pour qu'on comprenne bien, Richard Lévy, le cortex, déjà, c'est cette fine pellicule qui recouvre le cerveau, tout le cerveau ?
Alors, tous les hémisphères cérébraux, c'est-à-dire ces deux grosses masses que l'on a du côté droit et du côté gauche, sont recouvertes de cette écorce qu'on appelle le cortex.
Et ça ensuite... ressemble à quoi ? C'est quel genre de matière ? C'est visqueux ?
Alors, c'est plutôt yaourteux, on va dire, comme ça.
C'est blanc.
Mais ça tient, entre le yaourt et la gélatine, quelque chose comme ça.
Ça a une couleur particulière ?
C'est blanc grisâtre, d'où le nom matière grise.
Ah oui.
La différence de la profondeur qui est, elle, beaucoup plus blanche. Voilà. Donc l'écorce, c'est plusieurs couches, en réalité c'est pas une seule couche, c'est au moins 6 couches, enfin dans le cortex moderne, celui de l'homme, parce qu'il a évolué au fil des espèces.
Mais comme un oignon ?
Alors c'est, oui, vous pourriez peut-être presque le peler comme un oignon si on avait un outil suffisamment microscopique pour le faire. Donc c'est des couches microscopiques qui se succèdent les unes aux autres. Et dans chaque couche, il y a des neurones, des cellules nerveuses. Bon, le corps de la cellule, le noyau est le corps de la cellule. Et il y en a plusieurs dizaines de milliards dans cette structure cérébrale qui enveloppe les hémisphères cérébraux.
Et alors ce qu'on découvre avec vous dans le livre, et qui est plutôt contre-intuitif, c'est que donc le siège des fonctions les plus importantes qui font l'homme, l'homo sapiens sapiens, c'est dans ce cortex qui est... On pourrait imaginer effectivement que les scientifiques, on comprend qu'ils ne soient pas intéressés au cortex, parce qu'on pensait que c'était une couche de protection, presque. Ce qui est important n'est pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, enfin en surface.
Pour une fois, ce qui est le plus important est à l'extérieur, à la différence de l'orange,
ou l'écorce. Par exemple,
voilà. Oui, c'est à l'extérieur, mais en fait, c'est un processus qui démarre in utero, quand l'embryon se développe, et il y a ces préneurones, ces cellules souches vont se différencier et migrer progressivement vers la surface. Donc c'est un processus de développement qui fait que sur la surface du cerveau, il y a tous ces neurones.
Mais alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du cerveau, le gros truc blanc au milieu ?
Alors à l'intérieur du cerveau, il y a des noyaux qui contiennent des neurones, mais en quantité moindre.
Qu'en surface.
Et entre les deux, il y a cette substance blanche. La substance blanche, principalement, ce sont les prolongements de ces neurones qui forment des routes de communication. Donc, si les neurones de la région A, qui est située à l'arrière du cerveau, veulent communiquer avec la zone avant du cortex, eh bien, ces neurones vont utiliser ces routes de communication. Et c'est blanc parce que ces prolongements de neurones sont engainés dans une gaine de protection qu'on appelle la myéline. Et donc c'est ça qui donne cette...
Et ça c'est blanc la myéline.
Voilà, c'est ça qui donne ce côté blanchâtre.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et si le siège de l'intelligence, pour ceux qui en sont dotés, était non pas tant dans le cerveau, mais dans le cortex ? Le neurologue Richard Lévy est avec nous pour son livre passionnant « Cortex, percer les secrets de l'intelligence » aux éditions Albin Michel. Richard, votre livre se concentre sur le cortex préfrontal. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce cortex préfrontal ?
Alors tout d'abord, comme son nom l'indique, il est situé derrière le front, d'où son nom préfrontal. Juste derrière l'os frontal, hein, vous avez le cortex préfrontal. C'est un tiers du cerveau. Alors, ce qu'il a de particulier, c'est que de toutes les espèces vivantes de mammifères, c'est chez l'homme qu'il est le plus développé. Et très largement, et même par rapport à notre cousin le plus proche, le chimpanzé, notre développement du cortex préfrontal est très très important. Et donc, il y a une relation directe entre le développement de cette partie du cerveau et ce que les hommes font. Et ce que les hommes font plus que les autres mammifères, c'est qu'ils ont développé une forme particulière de pensée qui est une pensée imaginative. Et pour développer cette pensée imaginative...
Ah, l'imagination, c'est là.
Juste on a besoin de ce cortex préfrontal parce que c'est la structure qui va arrêter le présent, qui va figer le temps et qui va nous permettre, dans notre réflexion, aussi bien d'intégrer le passé, nos expériences, mais aussi de faire de la prospection pour le futur. Et l'imagination, ben, c'est d'imaginer tout ce qui n'est pas encore.
C'est ce qui nous fait rêver, du coup ?
C'est pas ce qui nous fait rêver au sens du rêve tel que l'on... physiologique, mais c'est ce qui nous fait imaginer ce qui n'est pas.
La distinction, elle est importante. C'est pas le siège du rêve au sens...
C'est pas le siège du rêve.
Les animaux rêvent aussi ?
Les animaux rêvent aussi, oui. Les animaux rêvent. C'est pas le siège du rêve. C'est le... Pardon.
Non, les chiens rêvent, je disais ça, les chiens rêvent.
Je crois.
Ah, on les entend.
Je crois que les chats, les chiens rêvent. D'ailleurs, il y a des expériences sur le rêve chez les chats qui ont été faites. Les premières expériences sur les rêves ont été faites chez les chats. Donc, beaucoup d'espèces mammifères rêvent. Je ne suis pas un spécialiste du rêve. Mais par rêver, on peut l'utiliser à un sens non littéral et plus littéraire. Et penser justement à tout ce que nous pourrions faire et que nous ne faisons pas. Tout ce qui est dans l'ordre de l'abstraction. Par exemple, l'espèce humaine a imaginé aller sous les mers, a imaginé aller dans l'espace, eh bien, pourtant nous n'avons pas d'ailes, nous n'avons pas de branchies, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire parce que nous ne vivons pas dans un présent complet, nous ne sommes pas liés à tout ce que nous voyons, nous ne sommes pas complètement dans la concrétude du présent, et nous pouvons imaginer l'abstraction du futur. Et ça, c'est grâce à cette structure cérébrale. Et quand elle disparaît, il y a des maladies qui peuvent l'affecter, eh bien, toutes ces capacités à vivre au-delà du présent disparaissent.
Pour revenir sur le cortex, vous en parlez comme d'un chef d'orchestre. Pourquoi ? Comment ça fonctionne ?
Alors, je parle du chef d'orchestre quand je parle du cortex préfrontal, de cette structure la plus antérieure. Eh bien, parce que c'est d'abord une interface entre toutes les zones du cerveau qui perçoivent nos sensations, qu'elles soient visuelles, auditives, ou nos perceptions internes, comme la faim, la soif. Donc, le cortex cérébral reçoit toutes ces informations. Et en même temps, c'est lui qui va envoyer les messages après une prise de décision, qui vont permettre d'agir. Donc c'est la zone entre « je perçois » et « j'agis ». Et dans cette zone, le cortex préfrontal va utiliser toutes ces informations, tous ces signaux, qu'on peut comparer à des instrumentistes de la pensée, et lui ne joue aucun de ces instruments particuliers, mais va diriger l'orchestre de façon à ce que la partition soit jouée harmonieusement, c'est-à-dire d'inciter à agir quand on considère que c'est adéquat, et bloquer les actions qui nous paraissent inadéquates. Là, par exemple, nous sommes en train de parler, vous m'écoutez, vous n'êtes pas levé, et vous n'êtes
pas ailleurs. Parfois, il le fait, quand l'invité ne lui plaît pas, il le fait.
C'est vrai.
Vous êtes très, très poli grâce à votre cortex frontal.
Du coup, ça veut dire que le cortex filtre les informations.
Absolument.
Comment il s'y prend ?
Il va agir sur les informations sensorielles, il va bloquer, il va filtrer. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de filtre, nous serions assaillis d'informations, nous serions bombardés en permanence de milliers d'informations qui viennent de toutes directions. Et donc là, au lieu de me concentrer sur ce que nous sommes en train de dire, je serais aussi attiré par les projecteurs, par les lumières rouges, etc. Ouais. Et je ne pourrais pas me concentrer sur cette discussion. Donc nécessairement, il y a un filtre inhibiteur qui va permettre de capter les informations qui sont utiles pour le comportement en cours. Donc ça, c'est une fonction de filtrage. Et puis, on va bloquer vraiment tout ce qui ne va pas permettre au comportement d'atteindre l'objectif, pas nécessairement l'objectif du présent, mais aussi un objectif du futur, un objectif à court, moyen ou très long terme.
Mais parfois, la machinerie n'est pas parfaite non plus. J'ai l'impression que parfois, on se souvient de détails absolument inutiles, alors qu'on n'arrive pas à mémoriser des choses importantes, des films qu'on a aimés, on ne retrouve plus le nom de tel réalisateur, alors qu'on se souvient de détails ridicules du quotidien qui nous reviennent en tête. Qu'est-ce qui merde dans le cortex ?
Alors, d'abord, ce n'est pas une machine parfaite. Ça, c'est le premier point. Et c'est une machine aussi qui subit les fluctuations des moments. Si vous ne dormez pas bien la veille, si ça ne vous intéresse pas, et bien évidemment, votre attention va être moins capturée par la situation. Donc, c'est un objet qui n'est pas parfait, qui fluctue avec des hauts et des bas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, nous sommes toujours tiraillés entre l'intérêt de réaliser quelque chose qui entraîne une récompense, une gratification immédiate, et quelque chose qui demande un effort à plus long terme, et qui demande un effort, mais qui nous permettra d'obtenir une gratification à plus long terme. Et notre vie est toujours balancée entre la pulsion du présent et la capacité à bloquer cette pulsion et se projeter dans le futur. C'est comme épargner, par exemple. Est-ce qu'il vaut mieux que je dépense 1 euro comme maintenant ça, ou est-ce qu'il vaut mieux que je gagne 20 centimes d'euros si je ne dépense pas 7 euros dans 10 ans, voyez.
Manon a déjà, hélas, la réponse à cette question.
Malheureusement.
Elle a déjà tout dépensé. Dis, Mathieu, Richard Lévy, tu penses que c'est le frère de Daniel Lévy, mon idole ? Me disait Quentin, avec les yeux du chapeauté dans Shrek, et prêt à dégainer sa perche à selfie. Ça m'a brisé le cœur de lui dire, Richard, que vous n'aviez aucun lien de parenté avec Daniel Lévy, à la mémoire de qui d'ailleurs ? Je propose, Quentin, qu'on dédie ce micro-trottoir.
Oui, bien sûr, oui. Je pensais même que... Enfin, on pensait que ça pouvait être aussi le frère de Marc.
Ah, c'est vrai.
Vous lisez même chaque été.
C'est vrai que je lis religieusement.
Nous sommes à Paris, fin de matinée, je garde mon scooter près d'un square et je regarde dans le rétroviseur la marque sur le front que m'a laissé mon casque. Et je me dis que tout ce qui se cache derrière ce front, c'est exactement ce qui vous passionne, vous, Richard Lévy. Alors vous allez peut-être être un peu déçu du mien parce que à Paris, trouver les textes de la discographie de Balavoine et la réplique d'un mauvais film de Clavier.
Il n'y a pas de mauvais film de Christian Clavier.
Pas grand chose. Mais peut-être que celui d'Alba, cet étudiant en philo que je viens de rencontrer, va vous intéresser. Il découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Le cortex. Bah, biologiquement, c'est une partie du cerveau.
Laquelle ?
Bonne question. Est-ce qu'on parle du cortex préfrontal ?
Précisément, mon cher, qui intervient dans la planification, la prise de décision ou la régulation des émotions, par exemple. Est-ce qu'il a pris des coups au cerveau récemment ?
Est-ce qu'on va parler de santé mentale ici et maintenant ?
Un peu, ouais.
Ouais, bah, je suis dépressif, donc voilà, on peut dire que c'est un coup au cerveau.
Ok. Et comment ça va en ce moment ?
Je fais aller, enfin, je suis suivi. Donc...
Et tu sens que ton cerveau t'aide ou qu'il t'entraîne parfois un peu ?
Pour le moment, il est plutôt altéré, mais j'essaye justement de conserver un peu d'énergie et de joie. Oui.
On avait fait une journée spéciale santé mentale sur Inter, c'est un thème qui nous tient à cœur. Je creuse un peu quand même sur le cerveau, car c'est un sujet qui passionne Alba.
Je lis pas mal d'interviews de neuroscientifiques, mais dont des magazines divers.
Ok. Qu'est-ce que ça dit ?
Ouais, bah, tout ce qui a trait à la plasticité, moi ça me parle beaucoup. C'est la capacité du cerveau à générer et à régénérer des tissus synaptiques, à créer des nouveaux chemins en fait de réflexion et à se reconfigurer au fil de la vie. Et cette capacité, elle est active elle est optimale jusqu'à 25 ans. Après, elle existe toujours, mais le cerveau est moins plastique.
Il vous reste plus beaucoup de temps, vous.
Moi, non, je profite. Hein.
Ah, il en profite. Mais ça peut aller même jusqu'à 30 ans.
Vous n'avez plus aucun filtre, finalement. Vous n'avez plus de cortex préfrontal, je pense.
Vous n'avez pas écouté.
Si, si, j'ai très bien
jusqu'à
écouté.
Jusqu'à 25, on peut créer, c'est ce qu'il disait. Oui. Voilà, nous, on a, ça fait longtemps qu'on a plus.
Ah oui, on a passé. Ah oui, d'accord.
Mais c'est ça que ça veut dire.
Ah d'accord, c'est ça que ça veut dire.
Vous n'écoutez rien. Bref.
C'est mal dit.
Non, mais ça peut même aller jusqu'à 30 ans, c'est ce que vous dites, Richard Lévy. Je repense quand même à mon grand-père qui trouvait son voisin, je cite, de plus en plus con de jour en jour, et il avait raison, en fait. Tiens, je croise la route de Natacha qui traverse la rue. Que fait-elle dans la vie ?
Moi, je suis dans une école de musique à Boston. Je suis chanteuse et artiste. Le cortex, c'est une partie du cerveau, non ? C'est ça ? Moi, ça me fait penser à l'anxiété, parce que j'avais lu un livre il n'y a pas longtemps qui parlait du cortex, justement, et que l'anxiété, c'est quand il y a justement le cortex qui marche moins et qui a plus la partie animale en nous qui travaille.
Je lui demande si elle est anxieuse, elle.
Ouais, je fais un travail dessus en ce moment. Bah, en fait, pendant plusieurs années, j'avais beaucoup de mal à écrire des chansons parce que justement, il y avait cette anxiété. Parce que quand on est créatif, on se rapproche un peu de cette partie de nous qui a mal. Mais en même temps, la créativité, ça permet à process, je sais.
Oui, de digérer. Alors quand je lui demande ce que la créativité donne, elle sort son portable et...
You were busy knitting plots, and your emaciated dreams, oh my ballerine.
C'est comme ça dans la rue, ça arrive parfois. Ma dernière rencontre semble nous connaître.
Mince, zoom zoom zoom, mais bien sûr, j'adore Mathieu Noël. Mais je suis avec mon équipe là, par contre.
Attends, vite fait.
Ouais, c'est quoi la question ? Oh, j'y crois pas, je vais passer à zoom zoom. C'est pour aujourd'hui ou non ?
C'est pour aujourd'hui, allez. Dernière réaction sur.
Le cortex ! Mais génial, le cortex préfrontal !
Exactement.
Ouais, exactement.
Richard Lévy qu'on reçoit dit que c'est un peu le chef d'orchestre de la pensée, quoi.
D'accord, ok, bah.
Comment vous l'entretenez, votre cortex préfrontal ? Comment vous le faites raisonner ? Comment vous gardez votre esprit critique ?
Alors, mon esprit critique, bah, j'adore jongler par exemple. Alors, je sais pas pourquoi, mais dès que je ressens qu'il faut que je reconnecte mes neurones ou qu'il faut que je me remette un petit peu dans le droit chemin, j'aime bien jongler. J'ai le sentiment que ça me reconnecte les neurones. Ou sinon, lire.
Vous jonglez avec quoi ?
Généralement des fruits. Alors, généralement des fruits, les oranges, j'aime beaucoup.
Ok.
Ouais, j'aime beaucoup les oranges. Sinon, j'adore créer des mots croisés.
Mais ça tombe bien parce que.
Créer ?
Oui, créer. Il en invente. Sur le skateboard, m'a-t-il dit. Je lui demande s'il prend le temps entre la perception et l'action, on en parlait, s'il a le temps de délibérer avec lui-même, c'est en partie à ça que sert notre cortex préfrontal.
Même si je suis un bélier de signe astrologique, en général je fonce et que je réfléchis après, dans le cadre du travail, surtout quand on est en équipe, hein, j'essaie quand même de penser à l'équipe, par exemple. Voilà. Là, je vais devoir y aller parce que je pense qu'ils m'attendent.
Bah ouais, ils vont vous attendre.
Là, ils m'appellent, faut vraiment que j'y aille.
Ciao, hein.
Bah, c'était
c'est
super.
Quoi votre prénom ?
Isaac.
Isaac, à bientôt.
Bah, bientôt, Louis, c'est bien ça ?
Quentin Louis.
Quentin Louis, ok. Bah, merci beaucoup et bonjour à monsieur Mathieu Noël. Vraiment, j'aime beaucoup votre émission.
Ouais. J'ai embrassé Mathieu Noël de la part d'Isaac dès mon arrivée cet après-midi au bureau. Comme Mathieu Noël n'est pas pudique et plutôt tactile, il a apprécié son cortex préfrontal qui n'aurait fini plus de s'allonger d'ailleurs. Il n'a même pas eu le temps de délibérer.
Ah là là. Sacré Louis, va. Ah ouais. Sacré Louis. Toujours le mot pour rire.
Le mot pour rire.
On va t'appeler Louis.
Richard Lévy, je reviens sur ce que disait Alba en début de micro-trottoir, parce que ça me fascine, les capacités régénératives du cerveau. Ça, c'est quelque chose qu'on sait peu.
On commence à en savoir un peu, alors peut-être pas tout, hein, loin de là. D'abord, le cerveau, quand on naît, n'est pas totalement formé. Et comme vous l'avez très bien dit, avec votre micro-trottoir, il met un certain temps. Alors, ça peut aller jusqu'à plus de 30 ans, mais même des études très récentes qui montrent que la maturation, pour atteindre son sommet, dépasse même les 30 ans, plutôt 32 ans, 33 ans, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, on a d'abord, pendant de longues années, le temps de créer de la plasticité, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les neurones sont là, mais on va créer des connexions, on va créer des routes qui vont relier ces neurones. Et ces routes, elles sont créées par les expériences que l'on vit, et les routes les plus grandes, les plus larges, sont liées aux expériences les plus solides, et les routes les plus étroites, les routes secondaires, les routes de terme, c'est les connaissances qu'on a moins bien stabilisées dans notre cerveau. Et puis après, dans la vie, on peut continuer à avoir une certaine forme de plasticité. Par exemple, si on a un accident de la vie, un traumatisme crânien, un accident de voiture.
On peut reconstruire.
Un accident vasculaire. On peut contourner certaines routes. Alors, on peut pas tout contourner. Par exemple, des neurones qui sont très spécialisés dans la vision, qui vont nous permettre de voir, ne vont pas nous permettre d'entendre si jamais on perd l'audition. Donc, il y a des neurones qui sont très spécialisés. Ceux-là, le niveau de plasticité peut pas être dépassé si la lésion les détruit. Mais il y a des structures comme le cortex préfrontal qui sont beaucoup plus, qui ont une action beaucoup plus générale, pluripotente, si vous voulez. Et à ce moment-là, si tout n'est pas détruit, on peut construire des routes de contournement.
Et comment il vieillit le cortex? Déjà, je suppose qu'il vieillit pas pareil pour tout le monde.
Non, absolument, il ne vieillit pas pareil pour tout le monde, mais quand même, si on prend l'espèce humaine en un bloc, on a une phase d'ascension, puis un âge d'or, qui est l'âge adulte, on va dire entre 30 et 70 ans, puis ensuite le cortex préfrontal commence à faiblir un peu, et on le voit d'ailleurs dans les évaluations que l'on peut faire.
C'est la perte de mémoire.
Moins de flexibilité, moins de capacité à changer de règles, un peu moins d'empathie, mais c'est compensé par nos expériences qui permettent de jongler avec tout ce qu'on a appris.
Ouais. France Inter.
Richard Lévy, vous avez déclaré le 7 septembre dernier dans le Figaro Madame, je vous cite, « L'intelligence est une spirale vertueuse, plus vous l'entraînez, plus elle se développe. » Le problème, c'est que l'inverse est vrai aussi, vous venez d'en avoir un aperçu hors antenne pendant la coupure musicale. Moins on l'entraîne, moins l'intelligence se développe. C'est pourquoi en 2022, ému par les regards bovins de Manon et Quentin, j'ai inventé le Zoom Zoom Test. C'est leur petite gymnastique quotidienne du bulbe. L'un des rares moments de la journée où leurs neurones sont vraiment sollicités. Notre thème du jour, le cortex et par extension le cerveau.
Sympa pour nos chroniques, mais...
Et pour comprendre... J'adore vos chroniques, surtout celles qui suivent. Non, je crois qu'il ne faut surtout pas manquer la pièce jointe aujourd'hui.
Ouais.
Pour comprendre comment ces quelques centimètres cubes de flambie ont pu accoucher d'inventions aussi prodigieuses que le plafond de la chapelle Sixtine, la Vénus de Milo, ou plus proche de nous, le doux Sasseur, le Cyril de la Carrière, ce quiz sera dédié aux capacités incroyables du cerveau. Tout d'abord, je ne vous ferai pas l'affront de vous demander quel est le pourcentage d'eau qu'il y a dans le cerveau. C'est 75%, même si chez Quentin, ce pourcentage monte à 95% quand il entend le générique du Zoom Zoom Test. Cependant, une fois qu'on a retiré toute cette flotte, qui coule à compagnie des déboucheurs, on embrasse. Selon vous, il reste quoi principalement dans le cerveau quand on a enlevé l'eau?
L'eau, okay.
Du sucre, du gras ou de la protéine?
Les trois?
Vous en prie,
ah non, B.
C? Des protes?
Des protéines, ouais. Vous avez un cerveau très musclé, vous, Quentin. Vous êtes,
Je muscle, en
ouais,
tout cas.
C'est, oui,
ça va vite.
Ça va très très vite chez Louis. Mais malheureusement, la bonne réponse nous vient du côté de Manon Mariani, du gras. C'est du gras qu'il y a dans le cerveau, c'est pour ça que Cyril ne participe pas au quiz, ce serait déloyal vis-à-vis de ses petits camarades. Le cerveau étant l'organe le plus gras du corps humain, juste après le tissu adipeux lui-même. C'est pour ça d'ailleurs que, n'en déplaise à Manon et Quentin qui n'ont pas de palais, la cervelle de mouton est si délicieuse.
On en prend plein la tête.
Le cerveau, c'est donc du gras.
Ça pour
mais...
manger la cervelle d'un animal, je vous ai rien demandé.
C'est délicieux et c'est très bon pour la santé. Le cerveau, c'est donc du gras, mais c'est aussi du sang. Car si on met bout à bout les vaisseaux sanguins du cerveau, on pourrait faire quoi? 600 km, soit Porto-Courbeau-Brest, 160 km, soit Lourdes-Biarritz, soit, ou 400 km, soit Alençon-Bordeaux.
C'est
Non, Lourdes-Biarritz.
400.
Déjà, c'est énorme.
160 km.
Déjà, c'est énorme.
Vous voyez déjà, parce que ça fait 100 km. Ouais, 160 km, vous dites n'importe quoi.
400.
400 km, vous voyez ce que ça fait, 400 km
ouais.
Eh bien, la bonne réponse était la réponse A. 600 km.
Incroyable.
Pensez-y, Quentin, la prochaine fois que vous irez vous recueillir sur la tombe d'Arek. 600 km, c'est énorme. Mais ce n'est rien. À côté, ce n'est rien à côté.
Qui est enterré à Brest.
Ce n'est rien à côté de la totalité du réseau sanguin du corps humain qui représente, d'après vous, environ 100 000 km, soit 2,5 fois le tour de la Terre. Si tant est que la Terre soit ronde, ce qui reste à prouver. Pas loin de 20 000 km, soit l'aller-retour pour un week-end de la honte à Las Vegas. Ou 50 000 km, soit un aller-retour Terre-Lune. On demandera confirmation à Thomas Pesquet le jour où il lira MEDM.
C'est.
Je suis devant, je crois.
Vous êtes devant.
Ça, je l'ai dit avant, Las Vegas.
Non, c'était la réponse A, bon, les amis. Là. C'était 100 000 km. Le réseau sanguin humain représente 2,5 fois le tour de la Terre. Ah, il était une fois la vie. Ce dessin animé qui répondait à toutes les questions, même celles qu'on ne se posait pas, souvenez-vous.
L'homme et la femme. Le couple. Des centaines de millions de spermatozoïdes partent à l'assaut. C'est une fantastique course d'obstacles. 1% seulement parmi ceux-là vont franchir la barrière du col de l'utérus. Bien peu d'entre eux vont parvenir au voisinage de l'ovule.
Parmi ceux qui ont franchi...
C'est Roger Carrel qui faisait ça?
Parmi ceux qui ont franchi la barrière de... Oui, vous avez reconnu sa voix, vous avez l'oreille absolue.
C'est Roger Carrel qui faisait ça?
Il est probable que ça le soit, mais il me faudrait du fact-checking pour vous l'affirmer. Parmi ceux qui ont franchi cette barrière du col de l'utérus, Manon et Quentin, comment? On ne sait pas. Mais sur un malentendu, ils y sont arrivés. Et aujourd'hui, vous le découvrez donc, le réseau sanguin d'un humain s'étend sur plus de 100 000 km, ce qui est absolument dingue, quand on voit la rapidité avec laquelle l'alcool du mojito monte au cerveau. Mais restons dans le cerveau, Manon. Restons dans le cerveau parce qu'on y est si bien. Comme je vous le disais en préambule, le cerveau, ça se muscle au propre comme au figuré. D'ailleurs, selon une étude récente de l'Institut Noël, 99% des auditeurs du quiz ont vu leur capacité cognitive augmenter durablement. C'est un fait indéniable. Il existe une activité physique régulière.
Ah, vous commentez vos propres chiffres.
Oui, c'est clair.
C'est bien.
Parce que là, j'essaie de gagner du temps. Mais il existe une activité physique régulière bénéfique pour les boyaux de la tête. Une activité intense, grisante, pourvoyeuse de sensations et de bienfaits, c'est bien évidemment le gaming, jouer aux jeux vidéo, ça sollicite la zone des réflexes. Le curling, qui fait travailler le centre de la coordination. Ou le marching, la marche qui est excellente pour la cervelle, même si elle nous fait passer pour des cons avec ses bâtons de marche qui font tac-tac.
Mais c'est, les trois, c'est... non
B et C.
Non. A et B.
C'est une seule réponse.
C'est alors.
Je n'accepterai qu'une seule réponse. Effectivement, Quentin, c'est la réponse. Okay. C'est globalement, toute activité physique est bonne pour le corps et le cerveau. Oui, Quentin, même l'activité à laquelle vous ne pouvez pas vous empêcher de penser.
La bouillie.
Ce aussi, ça marche. Cependant, le top pour le cerveau, c'est la marche rapide. Car selon l'INSERM, la marche régulière soutenue stimule la production d'une protéine, la BDNF, qui agit comme un véritable engrais pour notre cerveau, favorisant la naissance de nouveaux neurones dans l'hippocampe, qui n'est pas qu'un animal marin chelou, mais aussi une partie de notre cerveau. Et à terme, la marche rapide booste donc votre mémoire et vos facultés d'apprentissage également. Pour plus d'infos sur la marche rapide, rendez-vous sur le site de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre où vous serez accueillis par une voix familière, celle de Quentin, qui, oui, cachetonne un peu partout.
Eh bien, Olivier, le décor a bien changé depuis l'épisode précédent dans le Kéra, hein, dit ?
Indy. Bah perso, j'en sais rien vu que j'ai pas vu l'épisode sur le Kéra, mais ça devait être super.
Il a des fans grâce à ça, Quentin.
Je devais payer mon loyer à ce moment-là.
Effectivement. Quentin, on me signale en régie que vous avez remporté le quiz.
Ah bon ?
Bravo. Oui, je vous dis bravo, c'est rare, ça arrive parfois. Enfin,
vous avez oublié que hier vous lui avez attribué moins 2 aujourd'hui, je vous le rappelle, mais bon, voilà.
Oui, mais c'est trop tard.
Très bien.
Ma décision est prise.
Peut-être sur le fun fact de Roger Carrel ?
Oui, mais ça, on n'a pas de nouvelles.
Ah bon, on n'a pas de nouvelles.
C'est une bonne... Mais il a, heureusement qu'il a remporté le quiz, il avait une bonne info sur
Roger Carrel ?
Ouais, bravo. Allez, Quentin, bravo. Encore une victoire. Il rend possible le gai savoir, non pas Quentin lui, mais le cerveau. Le neurologue Richard Lévy est avec nous pour son livre passionnant Cortex, pour percer les secrets de notre intelligence chez Albin Michel. Richard, est-ce qu'on peut le dire, ou est-ce que c'est un résumé trop rapide, que le cortex, c'est le centre de l'intelligence, comme je l'ai dit en préambule ?
Bon, il faudrait déjà s'entendre sur ce qu'est l'intelligence. Alors, c'est pas une seule chose, l'intelligence, c'est pas uniquement nos capacités cognitives de raisonner, c'est aussi notre capacité d'interagir socialement les uns avec les autres. Dans l'intelligence, il y a des aspects très planifiés, puis des aspects plus intuitifs. Donc, je dirais que l'ensemble de notre pensée mène à notre intelligence. Le cortex étant l'élément central,
le chef d'orchestre.
En termes de quantité de neurones, c'est probablement là que se joue la plus grande partie de notre intelligence. Mais aussi bien dans nos capacités de raisonnement que dans nos capacités d'interaction sociale, aussi de réguler nos émotions, nos affects.
Vous dites que c'est ça qui fait de nous des personnes civilisées.
Alors, le cortex préfrontal fait de nous des personnes civilisées parce que dès qu'on enlève enfin, on ne l'enlève pas, dès qu'il disparaît, dès qu'il est affecté, il y a des maladies qui le touchent préférentiellement. Alors, à partir de là, nous vivons une forme d'animalité, nous avons une vie pulsionnelle, c'est-à-dire que nous cédons immédiatement à tout ce dont on a besoin dans l'instant. Si nous avons faim, ben nous allons manger immédiatement, etc., etc.
Il y a un chapitre dans votre livre qui s'intitule « Où l'on apprend que si les singes parlaient, ils ne seraient pas des hommes ». Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que en réalité, c'est pas nécessairement le langage qui fait que nous sommes des hommes. Le langage est apparu très tardivement, en fait, dans l'évolution de l'espèce humaine. Alors, après, on peut discuter, je suis pas ni anthropologue ni archéologue, mais disons qu'on sait très bien que si on prend l'humanité depuis son origine, entre 7 et 10 millions d'années en arrière, et aujourd'hui, le langage c'est minuit moins une dans l'apparition de l'humanité. Donc pour que le langage ait pu apparaître, il faut que d'autres fonctions cognitives aient pu se développer. Donc des capacités d'abstraction, des capacités de percevoir le futur, de tamponner le présent, et donc toutes ces... de lier aussi des informations qui sont très distantes les unes des autres. Et à partir de là, le langage, qui est un outil de communication basé sur les symboles, a pu apparaître. Mais il a d'abord fallu que d'autres fonctions cognitives se développent, et ces fonctions cognitives, déjà en se développant, elles nous différenciaient des autres espèces animales. Donc le langage n'est finalement que le produit final qui donne cet élément supplémentaire à l'espèce humaine, et qui permet aussi à l'espèce humaine d'être de plus en plus abstraite dans sa façon de penser. Mais elle a été précédée d'autres attributs qui font de nous une espèce un peu différente de nos cousins les plus proches.
Vous dites qu'un cortex
préfrontal affecté nous désinhibe, ce qui fait qu'on ne se comporte pas forcément bien en société, par exemple. Est-ce que ça veut dire que quand on boit de l'alcool, par exemple, on dit qu'on se désinhibe, est-ce que ça touche au cortex préfrontal ?
Absolument, le cortex préfrontal, c'est le contrôle. C'est une structure de contrôle. D'ailleurs, des théories de neurosciences cognitives récentes postulent que c'est la structure de contrôle cognitif. Un peu le chef d'orchestre, le contrôleur d'aéroport, si vous voulez. Et donc, à partir du moment où on prend une substance qui peut affecter son fonctionnement, eh bien, si ce fonctionnement est affecté, alors... on va voir apparaître un dysfonctionnement du cortex préfrontal et la désinhibition fait partie. Il n'y a pas que l'alcool, il y a tout un ensemble de produits qui peut produire la même chose, mais l'alcool va entraîner effectivement une action de diminution de contrôle du cortex préfrontal, d'où l'apparition d'une certaine forme de désinhibition.
Et est-ce qu'il y a des exercices particuliers pour muscler ce cortex préfrontal ?
Alors, oui, bien sûr, mais je dirais que les exercices, ils ne vous sont pas destinés, ils sont surtout destinés aux enfants, parce que c'est une structure qui n'a pas atteint sa maturité. Donc, si on veut mettre le maximum d'efforts dans le développement du cortex préfrontal, qui finalement va structurer notre style cognitif, qui va nous donner ce que nous sommes, eh bien, il faut le faire dans l'enfance. C'est l'enfance, l'adolescence...
Et ça passe par des jeux, par des lectures ?
Alors, ça dépend des phases, parce qu'en fait, toutes les fonctions qui dépendent du cortex préfrontal n'apparaissent pas toutes en même temps, ne se développent pas toutes en même temps. Disons qu'il y a des fonctions fondatrices, comme par exemple notre capacité à se représenter une information et à la maintenir en représentation dans l'esprit. Par exemple, si je vous donne un numéro de téléphone, vous pouvez le composer sur votre téléphone simplement à partir de sa représentation mentale. Cette capacité qu'on appelle la mémoire de travail se développe dès la petite enfance. Notre capacité à résister à la frustration, donc à contrôler l'inhibition, se fait aussi dans la petite enfance. Notre capacité à être en mesure de changer de règle pour s'adapter, ça se fait dans la petite enfance. Puis à partir de cette base-là, vont apparaître d'autres fonctions comme le raisonnement ou l'abstraction.
Vous écoutez France Inter, il est 16h47. On a déjà appris beaucoup de choses dans cette émission, mais alors là, je crois qu'on atteint les sommets. Voici la pièce jointe de Manon Mariani.
Une série aujourd'hui qui va ravir les enfants des années 80-90.
C'est mignon, c'est Cortex, c'est mignon, c'est Cortex. Le génie, Minus
l'abruti.
Et oui,
c'est ça.
Vous venez de débloquer un souvenir.
C'est fou, dans le cortex peut-être. Minus et Cortex est ce générique iconique, là j'ai le droit de le dire. Un dessin animé créé en 1995 qui suit l'histoire de deux souris de laboratoire. L'une s'appelle Cortex, elle a un très très gros cerveau, d'où son nom. Et elle se pense géniale, visionnaire, destinée à gouverner le monde, un vrai mégalo. L'autre s'appelle Minus, elle est naïve, imprévisible et présentée comme simple d'esprit. Elle a de grosses dents de lapin et est totalement soumise au bon vouloir de Cortex. Chaque épisode commence et se conclut par les mêmes phrases.
Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit ?
La même chose que chaque nuit, Minus. Essayez de conquérir le monde.
Eh oui, Minus et Cortex naissent au milieu des années 90 dans la série animée américaine Animaniacs, produite par Steven Spielberg. À l'origine, ce ne sont que des personnages secondaires, mais le duo devient rapidement l'un des plus populaires du programme, au point d'avoir le droit à son propre spin-off. Une chose quand même très rare dans les séries d'animation, surtout à l'époque. En anglais, elle s'appelle Pinky and the Brain. Chaque épisode a la même trame narrative. Cortex élabore un plan de domination mondiale, Minus l'accompagne et tout échoue en général à cause de Minus et de ses bêtises. Cortex tente par exemple d'hypnotiser la population via la télévision, de manipuler les foules grâce aux médias, de se présenter à une élection. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un ? Est-ce que Donald Trump a regardé cette série ? À travers son récit, la série est une satire du pouvoir évidemment et de l'arrogance intellectuelle. Elle se moque des dictateurs qui se pensent intouchables. Cortex veut tout contrôler mais il ne comprend jamais vraiment les humains qu'il veut diriger. Minus et Cortex va durer 4 saisons, 65 épisodes et même remporter un Emmy Awards pour un épisode spécial de Noël. En France, la série est diffusée dans l'émission culte de France 3. Autre souvenir débloqué, les Minicums, évidemment, ça fera sourire les plus nostalgiques d'entre nous qui rentraient pour le goûter, retrouver leur souris préférée.
Merci Manon, les Minicums qui étaient sympathiques mais qui n'arriveront jamais à la cheville du Club Dorothée, évidemment, on s'en souvient surtout démusclés.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Il fait clairement partie des laissés pour compte de Radio France, ces gens d'antenne qui ne bénéficient pas de la prime coiffure. Ou alors, s'il en bénéficie, il préfère vivement la dilapider dans les boîtes interlopes de Pigalle, car recevoir une prime coiffure et avoir la touffe d'Alain Souchon en fin de tournée, ce n'est techniquement pas possible, on est d'accord là-dessus. Pierre Courade, chaque après-midi, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono aujourd'hui, donc le cortex.
Ouais, même sous cette touffe de cheveux, si on peut appeler ça des cheveux, se cache donc un cortex. C'était le sujet de notre émission aujourd'hui, on était avec le passionnant Richard Lévy, neurologue. Il a une passion, le cortex, et plus précisément le cortex préfrontal. C'est précis, mais c'est dans cette partie de notre cerveau qui fait de nous des êtres humains. Déjà, il nous a expliqué que le cortex, c'était l'écorce du cerveau. Il est constitué de plusieurs couches de quelques millimètres au total. Sa consistance est yaourteuse, blanche grisâtre, d'où l'expression matière grise. Et c'est là le prolongement des neurones qui communiquent. Le cortex préfrontal, c'est donc la partie du cortex qui se trouve derrière le front. Il est particulièrement développé chez l'être humain. Et c'est cette particularité qui fait qu'on peut imaginer qu'on puisse voler, aller dans l'espace ou sous l'océan. Ça développe notre sens créatif, notre ingéniosité. C'est donc une forme d'intelligence. Ainsi, Richard Lévy nous a expliqué que sans le cortex, on pouvait toujours respirer ou courir comme une poule sans tête, mais on n'aurait aucune pensée structurée, pas de conscience du passé ni du futur. Par ailleurs, le cortex préfrontal permet la concentration, il filtre les informations sensorielles. C'est en fait un chef d'orchestre, il perçoit les signaux, la vision, la soif par exemple, et il envoie les messages nécessaires pour réagir correctement. C'est donc ici le siège de l'être civilisé. Finalement, le rire n'est pas le propre de l'homme, on en avait eu la confirmation avec Cyril, c'est le cortex qui nous définit comme tel, et ce détail n'est pas si minus, tout comme savoir que le Club Dorothée était sur TF1 et pas sur Antenne 2.
Ah,
ouais.
Mais c'était moins drôle.
En direct.
C'était moins drôle de dire TF1 que Antenne.
C'était bien résumé,
mais c'était pas la même chaîne.
Oui, c'est vrai.
Ah, c'est bien, pour une fois qu'un invité lui dit que c'est bien,
Merci, Richard.
Ça lui fait plaisir. Merci, mon cher Pierre. Lui, son cortex l'a probablement mal conseillé quand il lui a dit qu'il pouvait largement sécher ce grand gaillard de 200 kilos lors d'un Wall of Death devant Metallica. À la suite, il ne s'en souvient pas. Voici Harold Barbet.
Je dois bien avouer que quand à la sortie d'école, j'ai dit à haute voix, vite les enfants, faut que je termine mon papier sur cortex cérébral, j'ai été un peu fier. Ça m'a changé de la fois où m'a demandé d'écrire une chronique sur Dave et le yéyé. Il y a même la maman d'un gamin qui est venue me voir, fait vous êtes scientifique? On peut dire ça comme ça. J'ai de la recherche sur France Inter, je suis moi-même chercheuse en neurologie, comparons nos travaux. Peut-être plus tard, oui. Richard Lévy, vous faites la comparaison entre notre cerveau et une philharmonie, où le cortex en serait le chef d'orchestre. Mais peut-on raisonnablement penser que dans le cas de certaines personnes telles que moi, notre cortex est plus proche de l'homme orchestre que de la philharmonie? Parce que c'est vraiment le bazar dans mon cerveau, surtout la nuit, où il semblerait que mon cortex décide de foutre le bordel de manière illimitée. Mon cortex, la nuit, c'est ce mec que personne n'a invité et qui débarque dans ta fête alors qu'il a le vin mauvais et qui fait pipi sur une plante dans un coin de la pièce. Là. Je viens foutre la merde, genre ça c'est de vieilles histoires et faire chialer tout le monde. Et vous dites, Richard, pour que l'esprit se libère, il faut être dans le vagabondage mental. Ah mais je vagabonde, Richard. Mon esprit, la nuit, c'est le seigneur des anneaux. Il vagabonde de la comté jusqu'au Mordor, mais bizarrement, il ne se libère jamais. Pourquoi, quand j'arrive pas à dormir, mon cortex ne me transporte pas sur le tournage d'un film d'Orcel? Pourquoi me fait-il automatiquement penser à des trucs déprimants et négatifs? À chaque fois, je suis à deux doigts de me tirer une balle dans la tête, ou pire, de m'acheter des places pour un concert de Vincent Delerme.
Oh, on l'embrasse. Ah
oui. Je n'arrive pas à trouver le calme et la sérénité la nuit. Je bouge encore plus que la rotule artificielle de Cyril, ça c'est dire. Je retourne mon oreiller toutes les 30 secondes, j'ai l'impression d'être en train de faire cuire un steak dans mon lit. Je prends des pauses improbables, je change de côté toutes les 2 minutes et je finis mon bras sur le visage en soupirant comme ça. J'ai l'impression de poser nu devant DiCaprio pour qu'il me dessine comme l'une de ses françaises. En plus, il y a un creux au milieu de mon matelas. Il y a toujours un moment dans la nuit où on se retrouve collé avec ma femme, on dirait des merguez qui se touchent sur un barbecue trop chargé. Je devrais pas dire ça, les véganes. Déjà que j'ai peur qu'elle m'engueule quand je compte les moutons. Je dis plus à personne que j'arrive pas à dormir la nuit, sinon le lendemain, il y a toujours quelqu'un pour me dire « C'est normal que t'arrives pas à dormir, c'est la pleine lune. » N'importe quoi, je suis insomniaque, je suis pas un loup-garou. Ça, ce sont des gens qui passent trop de temps chez Nature et Découverte, car ils n'ont aucune imagination pour leurs cadeaux de fin d'année. Ils mettent tout systématiquement sur le dos de la nature. C'est constipé, ça m'étonne pas, c'est marée haute. Quand je finis enfin par m'endormir, 5 minutes après, mon réveil sonne. C'est comme si la nuit se foutait de ma gueule. Dans ton cul, Barbet, debout, pétzouille. J'arrive pas à dormir. Ce que je fais maintenant, c'est que je prends mon chat pour dormir. J'ai lu qu'un chat pouvait avoir des effets sur le cortex. Diminution du stress, apaisement. Donc je prends mon chat pour me détendre le cortex. Mais c'est un chat en fin de vie. Il veut pas rester. Il est tout le temps sous tension. On dirait qu'il s'est fait électrocuter. Je le retiens, mais il me griffe partout. À cause de lui, en plus d'avoir des insomnies, j'ai chopé la toxoplasmose. Mais c'est pas de sa faute. Il est en fin de vie. C'est plus ce qu'il fait. Parfois, il s'oublie sur le tapis. Le pauvre, je suis obligé de le gronder, de lui mettre le nez dedans. Je faisais pareil avec ma grand-mère à la fin de son Alzheimer. T'es une méchante, mamie. Vilaine, vilaine, vilaine. Et puis comment je récupère le tapis après ça? Toutes ces questions qui n'ont pas de réponse à cause de mon cortex. On va en abodir, mais ça avait du bon la lobotomie.
Merci beaucoup Harold Barbet. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Jeune, très probablement bientôt dans le service psychiatrique et en tournée. Vous êtes à Sens le 24 janvier, à Caen le 31 et la tournée des Zéniths. Vous faites la tournée des Zéniths avec Ultra Vomit.
Absolument.
Vous êtes vraiment en partout. Plein décollage.
Bravo.
Merci beaucoup professeur Richard Lévy. Je rappelle votre livre Cortex, percer les secrets de l'intelligence. C'est chez Albin Michel pour tout savoir si notre émission vous a mis l'eau à la bouche. Zoom Zoom Zen.